Ah, je comprends. Hein? On veut célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Triste nouvelle, j'ai appris ce matin, Gilles, que Jonathan et Nathalie sont rentrés d'urgence à l'hôpital. Pour donner naissance prématurément, ils l'ont transféré à l'hôpital Sainte-Justine. Ils sont là présentement. Elle avait 32 semaines de fête. Alors, ils ont besoin de nos prières. Hein? Alors, peut-être qu'on pourrait justement se pencher à l'instant et demander au Seigneur là, qu'il mette sa main. Eh bien, Seigneur, nous voulons te remercier pour ce beau service ce matin, cette belle musique qui nous rappelle cet événement si historique dans l'histoire de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Nous voulons te louer, Seigneur, et te célébrer ce matin alors qu'on réfléchit, on se rappelle cet événement et nous voulons fêter ensemble ce merveilleux message que Jésus vit aujourd'hui. Et Seigneur, nous voulons prier pour notre frère et notre sœur, Nathalie et Jonathan, alors qu'ils sont à l'hôpital et que des médecins travaillent avec elles pour donner naissance à cet enfant. On te prie que tu puisses intervenir, bénir cet accouchement et que cet enfant soit en pleine santé. Mets ta main sur eux, Seigneur, et console-les en ce moment même, alors que nous sommes en train de prier pour eux. Encourage-les. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais honnêtement, cette semaine, je dois avouer que ça faisait très longtemps que je n'avais pas autant entendu parler de religion et de foi au Québec. Avez-vous remarqué cette semaine? C'est incroyable. On voyait ça partout dans les journaux. Le Journal de Montréal, la presse ont consacré plusieurs articles sur la foi, sur la religion. Et j'ai regardé ça cette semaine, j'ai dit, bon sang, il me semble, même à la radio, ça n'arrêtait pas de parler de ça. Il y avait toutes sortes de discussions, de programmes là-dessus. Ça arrêtait même la presse pour, je pense, peut-être la première fois depuis bien des années, ont consacré des journées entières, là, plusieurs journées et plusieurs pages. Moi, je reçois la presse et plusieurs jours, ils ont consacré, je pense, 3 jours juste là-dessus. Et je réfléchissais cette semaine, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a de spécial cette semaine? À part de la Pâque. Évidemment, ça, c'est la première raison qu'on entend beaucoup parler de foi, de spiritualité, de religion cette semaine. C'est en raison de la Pâque. Mais il y a eu d'autres années où c'était la Pâque et il me semble qu'on n'a pas entendu parler autant que ça. Et j'ai regardé qu'il y avait plusieurs facteurs, je pense qu'il y en a 3, qui a contribué à l'engouement cette semaine de parler sur la foi et sur la religion. Et évidemment, la première, c'est que c'est la semaine de Pâque. Et c'est toujours une occasion où ça revient sur le tapis, on reparle un peu, tout le monde, de la religion. Mais il y a 2 autres facteurs là-dessus. Vous savez que dernièrement, on a pris au Québec des sondages qui ont été divulgués, qui ont révélé certaines choses des Québécois et sur la foi. Entre autres, on a appris cette semaine que nous savons maintenant que 42 % des personnes estiment que la religion est très importante dans leur vie. Donc, regardez bien ce qui se passe, c'est que 42 % des gens disent ça, c'est la religion, c'est très important dans ma vie. Mais 77 % des personnes disent être non pratiquantes. Donc, on croit que c'est important pour presque la moitié des gens, mais en même temps, 77 % des gens ne vont pas, ils ne pratiquent pas, ne vont pas à l'Église, carrément. Aussi, certains sondages ont révélé que 55 % des gens croient que la société québécoise a perdu son compas moral depuis que l'on a délaissé la pratique de la religion. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est peut-être l'une des premières fois que l'on tire une conclusion aussi tranchante que 55 % des gens croient que la société québécoise a perdu son compas moral depuis qu'on a délaissé la pratique de la religion. Et pourtant, seulement 7 % des croyants assistent aux offices religieux toutes les semaines. Alors, ce qui rend c'est non seulement cet engouement est nourri non seulement par la semaine de Pâques, mais non seulement par les sondages, mais c'est les contradictions aussi dans les réponses qui font jaser. Vous ne trouvez pas qu'il y a une sorte de contradiction ici, alors que des gens disent que c'est très important dans leur vie, mais en même temps, ne vont pas à l'Église? Ces contradictions-là dans les sondages et dans les réponses ont fait couler beaucoup d'encre cette semaine, depuis deux semaines surtout. Mais il y a une troisième raison qui a contribué à l'engouement, et c'est le Vatican. Avez-vous entendu, avez-vous appris qu'on a ajouté aux péchés capitaux? Il y a maintenant de nouveaux péchés à la liste des péchés capitaux. Toutes sortes de nouveaux péchés, ils ont donné la liste dans le journal, dont le péché contre l'environnement et toutes sortes de nouveaux péchés. Ça a tellement contribué à l'engouement qu'on en parle partout, dans tous les journaux, à la radio-télévision. D'ailleurs, même plusieurs chroniques ont été écrites et ça a inspiré plusieurs chroniqueurs à consacrer des articles dans les journaux. J'aimerais juste vous en lire un, une chronique qui a été écrite par Richard Martineau, qui a été dans le Journal de Montréal, intitulée « La chasse au péché ». Alors, je cite textuellement ce qu'il a dit, d'accord? Certains lecteurs disent que je suis anticlérical, parce qu'il venait quand même, il a écrit plusieurs articles, il n'arrête pas depuis quelques temps, Alors, certains lecteurs disent que je suis anticlérical. Faux, dit-il. En fait, pour tout vous dire, je m'ennuie de l'époque où les curés régnaient sur la société québécoise. Je vous le jure, au moins c'était clair. L'Église surveillait nos âmes et nous, on pouvait faire ce qu'on voulait. Une visite de temps en temps au confessionnal, histoire de se refaire une virginité, et l'on retournait à nos péchés la conscience tranquille. C'était le bon temps. Aujourd'hui, avec la disparition du clergé, la surveillance des âmes n'est plus l'apanage d'un petit groupe d'humains identifiés. C'est devenu l'affaire de tout le monde. Résultat, les curés sont partout. À l'école, dans l'Internet, au travail, plus moyen de faire un pas sans se faire sermonner par un militant altermondialiste, un ami de la crevette ou un spécialiste en nutrition. La notion de péché n'a jamais été aussi omniprésente que depuis qu'on a transformé les églises en condos. C'est bien simple, le péché est partout. Au moins avant, il y en avait sept. C'est tout. La gourmandise, la luxure et les autres que j'ai oubliés. Mais aujourd'hui, il y a un péché à tous les coins de rue. Fumer du pot, un péché. Transporter sa pinte de lait dans un sac en plastique, un péché. Acheter un billet de 6,49, un péché. Regarder une fille sur le net, un péché. C'est bien simple, moi j'étouffe. Non, vraiment, plus j'y pense, plus je m'ennuie de l'Église. Tu voulais entendre un sermon, tu allais à l'église le dimanche, juste avant de dîner. Tu écoutais un vieil homme en noir. C'était peut-être pas le meilleur matin de mettre ce complet-là, hein? Tu écoutais un vieil homme en noir te faire la leçon, tu te mettais un petit peu d'eau sur le front, puis tu rentrais chez toi bouffer du jambon. Avant, les gens craignaient le jugement de Dieu. Aujourd'hui, ils craignent celui de leurs voisins. Entre vous et moi, je préférais de loin l'époque où c'était Dieu qui jouait à la police. Il était moins zélé et plus silencieux. Voilà la façon qu'il décrit tout ce qui se passe ces jours-ci avec les articles de religion et tous les changements qui se passent au niveau de la spiritualité. Et j'ai lu beaucoup d'articles cette semaine, étant que je reçois la presse, il y a toutes sortes d'articles dans la presse, il y a plusieurs pages qui a consacré toutes sortes d'articles là-dessus, sur la spiritualité, la religion et tout ça. J'ai entendu des émissions de la radio, j'ai entendu Gilles Proulx, j'ai entendu différentes choses. Tu ne peux pas faire autrement, tu te promènes en voiture, tu entends toutes sortes de nouvelles, toutes sortes de choses qui se disent à la télévision, les rapports, les nouvelles, les sondages et tout ça. Et moi, ce qui me fascine dans tout ça, c'est que nous sommes dans la semaine la plus importante de l'année. Ce que je n'entends pas dans tout ça, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et pourtant qui est la raison de la fête de Pâques. Voici l'un des événements qui a marqué l'histoire, mes chers amis, de tout le monde. La vie, la mort, le ministère et la mort et la résurrection de Jésus-Christ a eu plus d'influence dans le cours de l'histoire que quelconque événement qui a eu lieu depuis le début de l'humanité. Ça a été un point charnière, un point tournant, et pourtant, on n'en entend presque pas parler. Voici un des événements, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, un événement qui a influencé le cours de l'histoire. Mais la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont des événements importants non seulement en raison de son influence au cours de l'histoire, mais elle a eu tout un impact. La résurrection de Jésus-Christ et sa mort ont eu un impact qui va beaucoup plus loin même que juste qu'à influencer le cours de l'histoire. La mort et la résurrection de Jésus montrent que nous pouvons placer notre foi, notre éternité et notre avenir sur la personne du Christ. Amen. En effet, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Jésus prouve qu'il est celui qu'il dit être. Vous entendez ça? Jésus est celui qu'il dit être. Il a prouvé que c'était vrai, tout ce qu'il a dit de lui. Par exemple, dans Jean 11, Jésus dit à la foule, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Amen. Et par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ a prouvé qu'il est ce qu'il dit être. La résurrection et la vie, celui qui met sa foi en lui, vivra éternellement. Jean 14, 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Jésus a prouvé qu'il est ce qu'il a dit qu'il était. C'est-à-dire, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, et nul ne peut venir au Père que par Christ. Voyez-vous, la mort et la résurrection de Jésus-Christ prouvent que Jésus est ce qu'il dit être. Deuxièmement, la mort et la résurrection de Jésus-Christ non seulement prouvent que Jésus est ce qu'il dit être, mais que Jésus a la puissance qu'il dit avoir. Nous voyons dans Matthieu 28, 18, après sa résurrection, Jésus vient voir les disciples et il dit aux disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et la mort et la résurrection de Jésus-Christ prouvent que Jésus, en effet, a toute la puissance dans le ciel et sur la terre. Sa résurrection le prouve, non seulement prouve qu'il est ce qu'il dit être, mais qu'il a la puissance qu'il dit avoir. Mais aussi la mort et la résurrection prouvent que Jésus fait ce qu'il promet de faire. Voilà. Et ça nous touche de très près. Jésus avait dit à ses disciples ce qu'il allait faire. Par exemple, dans Marc 10, 33, Jésus dit ceci, « Voici, nous allons monter à Jérusalem, on monte à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens qui se moqueront de lui. Ils cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et trois jours après, le Fils de l'homme va ressusciter. » Les disciples ont eu la misère à avaler ça. Comment ça se fait que tu vas mourir, puis tu vas ressusciter? Les disciples refusaient ça. Ils ont même essayé de l'empêcher, de l'arrêter. Jésus avait exactement dit ce qui allait se produire. Et ça s'est produit. Nous voyons et nous lisons dans Matthieu 28, 5 et 6. L'ange qui prend la parole et dit aux femmes qui étaient allées voir le tombeau, l'ange va dire ceci, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. » Et regardez bien ce que l'ange ajoute à la fin, « comme il l'avait dit. Voyez-vous, mes chers amis, la mort et la résurrection de Jésus-Christ prouvent que Jésus est ce qu'il dit être, a la puissance qu'il dit avoir et fait ce qu'il promet de faire. Jésus avait promis qu'il allait ressusciter le troisième jour et l'ange lui-même l'atteste et en témoigne à ses femmes comme Jésus l'avait dit. La mort de Jésus-Christ montre qu'il faut placer et qu'on peut placer notre foi sur Christ. Parce que maintenant, on sait que Jésus est celui qu'il dit être, il a la puissance qu'il dit avoir et il fait ce qu'il promet de faire. Pourquoi la mort et la résurrection, c'est important? Parce que ça nous prouve que maintenant, on peut placer notre foi en Jésus-Christ. Mais la mort et la résurrection de Jésus nous donnent aussi une grande assurance grâce à lui. Une grande assurance grâce à Jésus-Christ. Nous avons l'assurance, premièrement, que notre passé est pardonné. Amen. Quoi qu'on ait fait, quels que soient les péchés que nous avons commis, nous avons cette assurance maintenant auprès de Jésus-Christ que notre passé, tous ces péchés que nous avons faits, tout le mal que nous avons pensé, tout ça, c'est pardonné. Il n'y a aucune condamnation, nous dit Romains 8.1. Aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons la certitude, cette assurance que nous sommes pardonnés, justifiés, lavés, sanctifiés auprès de Jésus-Christ en raison de sa mort sur la croix où il a pris nos péchés sur lui et il est ressuscité le troisième jour. Nous avons l'assurance que notre passé est pardonné lorsque l'on place notre foi en Jésus-Christ. Et j'espère que tu as fait ça. J'espère que tu as l'assurance en toi que tes péchés sont pardonnés et que tu as la vie éternelle. Mais peut-être que tu n'as pas pris encore cette décision et ce matin tu es ici, tu écoutes. Sache que Dieu t'appelle en ce moment même et veut faire de toi son enfant. Dieu veut entrer dans ta vie et Jésus-Christ veut te sauver. Et tout le péché, tout ce que tu as fait dans le passé, tout ça a été réglé à la croix. Pourquoi traîner toute cette culpabilité? Pourquoi traîner ce jugement, ce joug sur tes épaules lorsque tous ces péchés ont été transférés sur Christ à la croix? Tu peux ce matin naître de nouveau, tu peux devenir un nouvel homme, une nouvelle femme, si tu viens à Jésus-Christ, si tu ouvres ton cœur à Christ et tu dis « oui, je crois ». Que tu es allé à la croix mourir pour mes fautes et je crois que tu es ressuscité. On a l'assurance que notre passé est pardonné. Nous avons l'assurance aussi, comme enfants de Dieu, de la puissance de Dieu pour servir le Seigneur. On a une puissance avec nous maintenant. Et j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 4. J'aimerais vous lire ce passage dans 2 Corinthiens chapitre 4. C'est l'apôtre Paul. Paul va passer 2 chapitres, chapitre 3, chapitre 4, à se défendre parce qu'il est quand même accusé. Il y a un mouvement dans l'Église, des judaïsants, des gens qui veulent abandonner la foi. C'est un temps difficile pour les chrétiens. Plusieurs sont persécutés, rejetés. Vous savez que c'était illégal de se convertir à Jésus-Christ. On n'en faisait pas la promotion. C'était considéré comme vraiment aller à l'encontre de la grande religion, les religions acceptées dans l'Empire romain. Et il y a quelques Juifs qui avaient suivi les chrétiens, qui sont tentés de faire marche arrière parce que c'est difficile. Il y a même des... Alors, on les appelle les judaïsants parce qu'ils veulent influencer les chrétiens à faire pareil, abandonner la foi chrétienne, abandonner Jésus-Christ et retourner au judaïsme. Qui était un mouvement, quand même, une religion acceptée chez les Juifs. Mais non seulement ça, ce groupe va même critiquer l'apostolat de l'apôtre Paul. Ils vont questionner son autorité, son ministère. On va l'accuser, on va abaisser son ministère, questionner son autorité et son ministère. Et ce qui va arriver, c'est que l'apôtre Paul va consacrer donc le chapitre 3 et le chapitre 4 à non seulement se défendre, mais expliquer pourquoi il ne perd pas courage, même dans les nombreuses difficultés auxquelles il a fait face et qu'il a été exposé. Parce que voyez-vous, il y a des chrétiens dans l'Église de Corinthe aussi qui passaient par des moments très difficiles. D'ailleurs, dans une portion du chapitre 4, l'apôtre Paul va expliquer comment la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Il faut être honnête, il y a des moments où c'est très difficile. Et l'apôtre Paul va reconnaître ça, et certainement c'est vrai dans son cas. Il va énumérer les différentes difficultés auxquelles il a fait face. Et c'est évident que Paul ne l'a pas eu facile. Mais Paul, à travers cette section, va démontrer comment, malgré ses nombreuses pressions, ses persécutions, ses mépris de la part de la foule, malgré ça, il ne perd pas courage. Et il a une grande assurance à continuer, à persévérer, à servir le Seigneur malgré tout. Et il va révéler où est-ce qu'il trouve tout ce courage. Lisez avec moi, si vous êtes dans le 2 Corinthiens, chapitre 4, nous allons débuter la lecture au verset 6. « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit aussi en vous. Voyez-vous, l'apôtre Paul admet, il explique comment il a passé à travers toutes sortes de difficultés. L'apôtre Paul a été très, très persécuté. Quand on compte les nombreuses fois qu'il a été jeté en prison, on pense que l'apôtre Paul aurait fait 7 fois du temps en prison. 7 fois jeté en prison à cause de sa foi, uniquement à cause de sa foi. 7 fois de la prison. Et des prisons, parfois pas trop pire, mais parfois très difficile. Il y a même une prison que les archéologues ont découvert, qu'on peut visiter encore aujourd'hui, et ça s'appelait Mamertine. Ça s'appelle Mamertine, c'est un trou à terre. Là. Vous savez, aujourd'hui, on dit on va envoyer un prisonnier un peu rebelle, on va l'envoyer dans le trou. Mais dans ce temps-là, c'était pas ça. C'est qu'on avait envoyé l'apôtre Paul dans un trou. Le trou c'était dans le plancher. Littéralement, on avait fait un trou avec une corde. On descendait les prisonniers à travers ce trou-là. Ils descendaient à travers une corde. Et on accumulait les prisonniers dans ce caveau, dans ce trou, jusqu'à temps qu'il y en ait trop. Quand il y en avait trop, on ouvrait une immense porte en dessous et l'eau remplissait cette cuve, ce trou, et tous les prisonniers mouraient de noyade, et quand ils étaient tous morts, ce qu'on faisait, on ouvrait une autre trappe et tous les corps étaient comme balancés par le cours d'eau et ils envoyaient comme dans une dompe. Et Paul a été envoyé dans ce trou, le Mamertine, et on le voit ça, et d'ailleurs on peut le visiter encore aujourd'hui. Il y a des explications là-bas, on peut le voir, des restes, des vestiges de ça. Paul a été jeté en prison plus de 7 fois, il a été battu, il a été fouetté à cause de sa foi. Il a passé des moments très difficiles. Il le reconnaît. Mais malgré ses nombreuses difficultés et ses pressions, Paul n'arrête jamais. Il n'arrête pas. Pourtant, Paul n'est pas un surhomme. Il est humain, comme nous autres. Mais il avait beaucoup d'assurance. Et ça se voit, ça. D'ailleurs, même dans les 2 chapitres, ça se voit souvent, au chapitre 4 et chapitre 3, on le voit souvent. Par exemple, regardez le verset 3 ici. Intéressant ce qu'on voit ici. Regardez bien le chapitre 3, verset 4, qui dit ceci. « Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. » Voyez-vous le mot « assurance » alors même qu'il est en train de faire la liste de ses nombreuses épreuves et difficultés. À travers ces difficultés, Paul gardait une assurance. Regardez le verset 6. Il dit « Il nous a rendus capables d'être des serviteurs d'une nouvelle alliance. » Voyez-vous, nous sommes capables. L'apôtre Paul est encore en train de dire, on est capable, on a de l'assurance, j'ai de l'assurance, je suis capable, je suis rendu capable par Dieu, il m'a rendu capable Verset 12, la même chose. « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. » Et malgré les nombreuses épreuves et difficultés, Paul ne se sentait pas comme en prison. Il se sentait toujours en liberté. Il y avait cette aisance, cette liberté, cette joie de vivre. Il avait cette paix en lui. Regardez chapitre 4, verset 1. « C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas quoi? On ne perd pas courage. » On continue à avoir du courage, malgré ce qu'il a vécu. C'est incroyable. Il dit, on ne perd pas courage. Regardez encore plus loin, verset 16, toujours chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas quoi? Encore, hein? Il répète plus de 6 fois qu'il ne perd pas courage, qu'il a de l'assurance, que Dieu l'a rendu capable de le faire. Il a cette conviction. Le gars ne lâche pas. Il ne lance pas serviette. Il a de l'assurance. Et mes chers amis, c'est exactement ce qu'on voit ici, c'est que Paul a cette assurance en raison de la résurrection de Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui rend Paul si fidèle à servir le Seigneur, à mener sa vie chrétienne? Comment Paul réussit-il à ne pas perdre courage, à remplir son ministère? C'est qu'il était conscient, premièrement, qu'il portait un trésor. Avez-vous remarqué ce qu'on dit au verset 6 et 7? Premièrement, verset 6 parle de la connaissance de Jésus-Christ. Il parle d'une relation avec Jésus-Christ. Il dit ici, verset 6, « Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Ça, mes chers amis, c'est une belle façon de décrire quelqu'un qui vient à Jésus-Christ. Quelqu'un qui reçoit Jésus-Christ dans son cœur, un voile est ôté, et Dieu lui permet de voir sa gloire à travers Christ. Et c'est la première chose qu'on découvre. Hein? Quand tu viens à Jésus-Christ, tu vois Jésus comme tu ne l'as peut-être jamais vu, sûrement jamais vu auparavant. Jamais il t'aura été donné de voir Jésus et la gloire de Dieu que le moment où tu t'es converti à Jésus-Christ. Êtes-vous d'accord avec ça? Ah, c'est incroyable, c'est tellement beau, hein? C'est tellement beau, la première fois où tu ouvres ton cœur, peut-être qu'il y a des gens qui t'ont parlé de Jésus-Christ plusieurs fois avant, et tu n'avais pas ouvert ton cœur. C'est pour ça que tu n'arrivais peut-être pas à voir, ou tu n'arrivais pas à voir la gloire de Dieu. Mais dès l'instant où tu as ouvert ton cœur à Jésus-Christ, tu as dit, « Entre dans ma vie, entre dans mon cœur. » Il y a quelque chose à ce moment-là de miraculeux qui se passe, où Dieu te donne ce privilège et ce luxe de voir sa gloire à travers Christ. Ah, c'est incroyable. Et si tu n'as pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, et tu es ici ce matin, je t'encourage à ne pas quitter ce lieu sans dire à Jésus, « Jésus, moi, je ne suis pas né de nouveau. Ce matin, entre dans mon cœur. » Si tu n'as pas l'assurance d'être un enfant de Dieu, demande-le ce matin même de venir dans ta vie, d'entrer dans ta vie. Pour que Dieu enlève ce voile, te fasse voir sa gloire à travers Christ. Ah, c'est glorieux. C'est glorieux, mes amis. Moi, je vous trouve pas mal tranquille pour des gens qui ont cette gloire-là en eux. Je vous trouve pas mal sage. Il me semble qu'il faudrait que je vous contienne, que je vous arrête pour que vous restiez tranquille de savoir que vous avez toute la gloire de Dieu qui brille par Christ dans vos cœurs. Hein? Amen! Ben oui! En arrière, là! Ah, c'est glorieux. Hey, c'est glorieux, frères et sœurs. C'est glorieux. Il me semble que je vous vois plus excité quand les Canadiens font un but. Hein? Ah, la gloire! Pensez-y, vous avez le luxe, comme enfants de Dieu, nous avons le luxe, le privilège qui est donné uniquement aux enfants de Dieu de rentrer dans le lieu très saint et de voir la gloire de Dieu à travers Christ. Nous, on a ça comme enfants de Dieu. Ah, c'est merveilleux d'être un enfant de Dieu. Et l'apôtre Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est, il dit, il compare ça à un trésor, il dit, je porte ce trésor dans mon cœur. J'ai ce trésor, cette richesse, cette gloire, j'ai ça dans mon cœur. Je le traîne avec moi. Je peux avoir toutes sortes d'épreuves et de difficultés, mais j'ai ce trésor en moi. Voyez-vous, Paul, ce qui l'aidait à passer à travers ses nombreuses difficultés, c'est de savoir qu'il portait ce magnifique trésor en lui. Mais Paul va dire, il va dire ceci. Il dit, nous portons ce trésor, verset 7, dans des vases de terre. Est-ce que tu te sens comme un vase de terre? Tu ne te sens peut-être pas comme un vase très riche. Et Paul nous rappelle que nous sommes, après tout, des vases de terre. Mais il y a une raison pour ça. C'est pour donner la gloire uniquement à Dieu. Et parce que Dieu veut faire des grandes choses à travers vous. Et il faut nous garder humbles. Et c'est pour ça que Paul va dire, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et peut-être tu te sens comme un vase, tu sens que Dieu ne pourrait pas faire grand-chose avec toi. Mais vous savez qu'un vase pour être utile n'a besoin que de trois affaires. Pas compliqué. Pour qu'un vase soit utile, nous sommes tous des vases de terre, c'est un enfant de Dieu. Puis pour être utile, pour que tu sois puissamment utilisé par Dieu, là, pour que Dieu fasse éclater sa gloire à travers toi et qu'il se sert de toi, tu as besoin de trois choses. Un vase, pour être utile, a besoin de trois choses. Être propre, être vide, puis être disponible. C'est vrai? Pas compliqué, hein? C'est vraiment pas compliqué. Premièrement, être propre, donc tu veux marcher dans la sainteté. Tu n'es pas parfait, mais tu veux chercher la sanctification et t'améliorer. Et c'est Dieu qui fait ça en toi. Tu veux être vide, vide de toi-même. Tu ne veux pas te glorifier, péter les bretelles. Tu veux être vide de toi-même, être humble et chercher la gloire de Dieu. Et tu veux être disponible. Sers-toi de moi, Seigneur. Je suis un vase de terre. Je suis disponible. Je suis juste là, sur le bureau, Seigneur. Sers-toi de moi. Maintenant, si tu ne te rends pas disponible, Dieu ne servira pas de ton vase de terre. Mais si tu es disponible, tu veux être utilisé par Dieu, laisse-moi te garantir une affaire. Tu peux être certain que Dieu va servir de toi et il va le faire puissamment parce qu'il veut faire glorifier son Fils. Il veut glorifier son Fils Jésus-Christ. Ah, mes chers amis, c'est tellement excitant que d'être un enfant de Dieu. Parce que nous avons l'assurance de la puissance de Dieu dans nos vies. 2 Corinthiens 4, 13 dit ceci. Paul va continuer plus loin. Nous avons lu la section où il décrit ce qu'il a vécu, mais verset 12 continue en disant, « Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Et comme, verset 13, « comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole du psaume, de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. » Et de la même manière que l'auteur des psaumes, le psaume 116, tout comme l'auteur de ce psaume a conservé sa foi au milieu de la souffrance, d'où cette parole, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », c'est ce même Paul dit, nous aussi, on croit, c'est pourquoi on parle de Jésus-Christ et on continue avec assurance d'apporter ce magnifique trésor partout parce qu'on veut partager ce beau trésor à tout le monde. On ne veut pas garder ce trésor que pour nous-mêmes. On veut le propager. On veut que tout le monde ait ce trésor. On veut que tout le monde découvre ce trésor de la gloire de Dieu à travers Christ. Amen. C'est sa confiance dans le Dieu qui a ressuscité Jésus qui rend Paul capable de continuer de partager l'Évangile, sachant que les gens qui auront la foi seront grandement bénis et apporteront des actions de grâce au Seigneur. Regardez bien ce qui suit. Sachant, alors, nous avons cru, donc nous parlons, verset 14, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Voyez-vous ce qui motive Paul, ce qui encourage Paul? Et Paul n'est pas capable de garder ce trésor. Il dit, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Paul n'est pas capable de garder ce trésor. Et réalises-tu que lorsque tu vas à quelque part, toi, tu es en train de traîner un magnifique trésor en toi? Incroyable! Réalises-tu que tu te promènes dans la semaine, où que tu es, soit à l'école, tu es assis dans une classe, il y a 20 étudiants autour, toi, c'était un enfant de Dieu, tu es la personne la plus riche dans la classe. Tu as quelque chose que peut-être personne dans la classe possède. Tu es riche, tu as ce trésor de la connaissance de Jésus-Christ. Dieu t'a fait connaître Christ et sa gloire. Et mes chers amis, lorsque tu rentres dans une classe, soit à l'université, au cégep ou au secondaire, et tu es un enfant de Dieu, tu as ce trésor dans ton cœur. Et parce que tu as cru, tu veux parler de lui et communiquer ce trésor à tout le monde. Tu veux donner ce trésor aux autres. Qui que tu sois, quand tu es un parent et tu parles à tes enfants de Jésus-Christ, tu es en train de partager ce beau trésor à tes enfants, parce que tu veux que tes enfants aient ce trésor dans leur cœur. Partout où tu vas, tu es un colporteur, tu es un représentant, tu es en train d'emmener comme à ton travail, quoi que tu fasses, tu as un trésor en toi et tu peux communiquer, partager ce beau trésor où tu te trouves. Et Dieu veut faire cette œuvre-là à travers toi avec puissance. N'importe où tu t'en vas. Même chez le coiffeur, on va faire couper les cheveux. Cette semaine, encore une fois, je vais me faire couper les cheveux, puis c'était une nouvelle coiffeuse. Il n'y avait pas personne dans le salon, puis il y avait une nouvelle coiffeuse que je ne connaissais pas. Elle s'appelle Kim. Donc là, OK, voulez-vous faire laver les cheveux? Oui, puis ça, bon, et, là, je m'assois, puis là, elle commence à me couper les cheveux, puis ça, tu sais, bon, on ne se connaît pas. Elle ne sait pas que je suis pasteur, il y en a d'autres qui le savent, elle ne sait pas, elle est tout seul, etc. Puis parfait, excellent. Coupe les cheveux, commence à jaser. Vous savez, hein, c'est une belle personnalité, les coiffeuses. Hein. Ça jase et tout ça. Bon, ben, hey, j'ai dit, c'est une grande semaine cette semaine, hein, la semaine de Pâques. Hey, j'ai dit, toi, as-tu la foi, toi? Grande semaine comme ça. Là. Alors, elle me coupe les cheveux, puis là, elle commence à me dire. Oh, elle dit la foi, hein? Elle dit ça, c'est très personnel à chacun, ça, hein? J'ai dit, oh boy, OK, mais ça commence mal. Hey, OK, wrong answer. Oh, oh! Attention, là, Dieu veut lui donner ce trésor, hein? Pas fini, un peu, pas fini. Là, à un moment donné, comme elle répond pour elle, alors elle se tourne vers moi, elle me pose une question, elle dit, « Et vous, avez-vous la foi? » Bien, laisse-moi te dire, ça va me faire plaisir! Et là, mon ami, j'ai pu partager l'Évangile à elle, puis t'espères toujours que quand même, elle t'écoute, mais quand même, elle coupe quand même. Puis là, j'ai pu partager l'Évangile, et tout ça... Et écoutez bien ce qu'elle m'a dit après avoir entendu tout le message de l'Évangile. J'ai parlé de la croix, j'ai parlé de la mort, de la nouvelle naissance, comment j'avais accepté le Seigneur, puis comment la conversion et tout ça, la nouvelle naissance, tout ça. Et à un moment donné, elle me dit ceci. « Mon ami, j'en ai la chair de poule, je vous en parlais, c'est incroyable, j'en venais pas. » C'est bon sang. « Hé Seigneur, t'as connaissais-tu? » Elle dit, moi, elle dit, justement, je suis en train de lire une trilogie. Savez-vous ce que c'est, ça? Trilogie? Ben des pages. Trois livres. Ah oui? Elle dit, oui, ça s'appelle « Conversation avec Dieu ». There is a God. Dieu savait que Kim serait tout seul cet après-midi-là, une journée très occupée habituellement. Elle dit, je ne comprends pas, c'est tranquille. Parce que Dieu lui a envoyé quelqu'un qui avait un trésor dans son cœur. parce que Dieu veut toucher le cœur de cette jeune fille-là, qui va passer des dizaines et des dizaines d'heures à lire des centaines de pages pour apprendre comment avoir une conversation avec son Dieu. Est-ce qu'elle cherche cette jeune fille-là? Malheureusement, au mauvais endroit. On m'a raconté un peu le livre. Mais cette fille-là cherche. Elle veut apprendre comment avoir une communion avec Dieu. Et elle m'a ouvert son cœur. Elle m'a dit qu'elle avait la foi. Elle avait la foi. Et là, j'ai pu lui présenter l'Évangile et j'ai dit, « T'as-tu un Évangile, toi? T'as-tu le Nouveau Testament? » »« Ah, elle dit, sais-tu? » »« Elle dit, savez-vous? » Elle dit, « Quand j'étais jeune, j'avais ça. J'avais... Mais là, j'en ai plus. J'ai plus rien de ça. » Mais j'ai dit, « C'est correct. Je vais venir t'en apporter un. D'accord? » Ça marche. Alors, je vais apporter un Évangile. Priez pour elle, priez pour Kim, que Dieu puisse toucher son cœur et qu'un jour, elle puisse se tourner vers Jésus-Christ. Quelle joie dans nos cœurs de pouvoir prendre ce beau trésor et de pouvoir le propager aux autres, frères et sœurs. Parce que Dieu veut atteindre, veut gagner les cœurs, veut que ce trésor puisse se répandre et aller partout. Paul était conscient qu'il portait un trésor. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas garder ça pour lui-même. Malgré les difficultés, les épreuves, malgré que c'était très difficile parfois, il était à terre, presque mort, laissé pour mort, Mais il continuait parce qu'il savait, il était conscient qu'il portait un trésor. Et mes chers amis, quel que soit peut-être ce que tu vis en ce moment qui est très difficile, que ce soit pour la santé, que ce soit au niveau de l'emploi, quel que soit, tu sais, il y a des gens qui ont même ont eu des revirements au niveau de leur emploi, des gens qui ont des difficultés de santé, peut-être des gens qui ont des difficultés avec leurs ados. On ne sait pas ce que vous vivez. Ne lâchez pas. N'abandonnez pas. Soyez conscient qu'il y a un magnifique trésor dans votre cœur et vous êtes appelé à porter ce trésor. Vous portez un trésor en vous. Alors, Paul était conscient de ce trésor, qu'il portait un trésor. Mais deuxièmement, ce qui lui donnait l'assurance, il avait... Nous avons l'assurance de notre résurrection et de notre gloire éternelle. Alors, regardez bien ce qui suit. Sachant, verset 14, « Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscita aussi. » Nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Qu'est-ce qui poussait et inspirait Paul à continuer de servir le Seigneur au risque de sa vie dans son cas? C'était sa conviction qu'un jour, il allait être ressuscité. Rien ne pouvait déranger Paul de remplir sa mission que d'offrir ce trésor du message glorieux de Jésus-Christ. Malgré ses difficultés, c'était de savoir, parce qu'il savait qu'un jour il serait ressuscité. Et regardez ce que ça dit d'ailleurs, plus loin, le verset. Ça dit, Paul, verset 15, « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi, verset 16, nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre âme intérieure, verset 16, se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Paul est en train de dire, même si notre homme extérieur est en train de se détériorer, mon homme intérieur, notre homme intérieur est en train de se renouveler. Et ça s'améliore, on progresse, on devient de meilleur en meilleur. À mesure qu'on connaît Dieu plus intimement, on grandit, on découvre qui est Dieu de plus en plus. Et cela a un effet en nous de nous renouveler à l'intérieur. Moi, mes chers amis, cette semaine, j'ai vu exactement ça. J'ai vu quelqu'un se détériorer à l'extérieur et se renouveler à l'intérieur. J'ai vu exactement ça devant mes yeux. Alors que je suis allé visiter, ma femme et moi, on est allés chez mon beau-frère en Ontario et il a le cancer. Mon beau-frère, pendant des années, je lui parlais de l'Évangile. Pendant des années, et il ne voulait rien savoir, n'avait aucun intérêt. Et cette semaine, on est allé le visiter pour histoire de l'encourager. On a sorti de ma sœur, on est allé au restaurant et tout ça, faire changer des idées parce que ça demande beaucoup de soins. Il est en chimio, en radiothérapie. Il a toutes sortes de réactions dans son corps et réagit parfois bien, parfois mal. Et ça a toutes sortes de conséquences. Et juste avant la fin de tout ça, on s'en allait, puis je me tourne le dos, il était assis sur sa chaise, incliné, je me tournais, je m'en allais, je lui dis « OK, bye-bye, Marc », tout ça. Et je me retourne le dos et il dit « Tu sais, Normand, mon cancer est en train de m'approcher de Christ. » Lui qui me dit ça, là. Il est parti à pleurer, puis il a penché sa tête, fermé ses yeux en pleurant. Il avait de la misère à prier. Puis il dit ceci, en plein cancer, lui, là, mon beau-frère, lui qui est dans cet état, alors que lui était un chef d'entreprise, c'était un des premiers à Gazette, un homme toujours au-dessus de ses affaires, le brisé, maintenant tellement brisé, il a fait une prière, et dans sa prière, il n'a même pas prié pour guérir. Lui, là, même pas prié pour guérir. Et qu'est-ce qu'il a fait dans sa prière? Il a juste dit une chose. Il dit, « Je te remercie. » Imagine-toi. « Je te remercie parce que je te découvre. » Imagine. Lui, là, ce gars-là, vois-tu, tu es en train de découvrir la gloire de Dieu sur Christ. L'apôtre Paul pouvait continuer de partir, prêcher ce message, aller dire aux gens, malgré ce qu'il vivait, et pas lancer la serviette, continuer de servir le Seigneur, malgré les difficultés, malgré les critiques et les jugements des autres. Il continuait, même par les chrétiens. Les chrétiens, même eux-mêmes, certains chrétiens, le jugeaient et le critiquaient. Malgré ça, il continue, parce qu'il sait qu'il porte ce trésor. Il sait qu'il va être ressuscité un jour, puis il sait que tout ce qu'il fait, un jour va rentrer dans la gloire. Et Dieu sait tout ça. Ah, mes chers amis, comme le message de la croix et de la résurrection est tellement glorieux. Aujourd'hui, on célèbre Pâques parce que Pâques nous rappelle que la mort et la résurrection nous montrent que nous pouvons placer notre confiance, notre foi, notre éternité sur la personne de Christ. Parce que maintenant, nous savons que Jésus est celui qu'il dit être. Il a la puissance qu'il dit avoir et il fait ce qu'il promet de faire. Pâques nous rappelle aussi que la mort et la résurrection de Jésus nous donnent une grande assurance grâce à lui. Nous avons l'assurance que notre passé est pardonné. On a l'assurance que la puissance, que nous avons en nous la puissance de Dieu pour servir, le servir. Et nous avons l'assurance de notre résurrection et de la gloire éternelle qui est à venir. Les quelques afflictions que nous pouvons avoir maintenant dans ce monde visible ne sont rien lorsqu'on compare toute la gloire à venir dans ce monde invisible. Et croyez-moi, mes chers amis, ça s'en vient très vite. Amen. Prions, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te louer pour le magnifique message de Pâques. Quel message glorieux. Et nous portons ce trésor en nous, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, nous voulons te chanter à ta gloire ce matin parce que tu es mort, Jésus est mort, il est ressuscité et il vit aujourd'hui, il vit dans nos cœurs. Et nous voulons te bénir, te chanter, te donner gloire et tous ensemble, nous te louons au nom de Jésus. Amen.
Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » Et ce matin, on veut encore une fois se lever et chanter que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité. Bien fort ensemble. Vivant.